With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, comme vous le savez, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et de toutes ces personnes, tous ces groupes sans aucun complexe. Avec Kif Taras, nous avons pris le parti de discuter de la manière dont les questions racistes impactent notre quotidien, les questions raciales d'ailleurs, on peut dire ça. Hein. Et s'il y a un endroit où l'on passe du temps, c'est bien le lieu de travail ou d'études. En effet, c'est souvent dans ce cadre qu'on est exposé aux petites questions agaçantes sur nos pratiques culturelles réelles ou supposées, aux blagues un peu lourdes sur nos origines ou à des formes de curiosité totalement déplacées. Et cela peut être bien pire quand cela coûte des opportunités professionnelles ou vire carrément au harcèlement. Comment faire pour lutter contre le racisme quand il s'exprime au boulot?
Pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir Marie Da Silva. Salut Marie.
Salut Marie.
Salut.
Alors, on a eu beaucoup de mal à t'avoir parce que tu es très sollicitée.
Et ça fait des mois qu'on essaie de t'avoir, Marie Da Silva, qu'est-ce qui se passe?
Les tournées, l'album. Non,
Alors, tu es coach stratégique en entreprise pour femmes racisées. Tu as ta propre agence nommée Nkali et tu es aussi très active sur Twitter avec ton compte @NapiliCayo.
Alors ici, nous avons un rituel. On demande aux personnes qui passent devant ce micro de nous dire comment elles se situent sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, au hasard, Grace est asiatique hein, et je suis noire. Et toi, Marie, qui es-tu? Non.
Alors, je suis d'un noir glorieux.
J'adore. Toi, tu te présentes comme étant noire.
Oui. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Est-ce qu'il y a un jour dans ta vie où tu as découvert, où tu t'es aperçu du fait que tu étais noire?
Oui, bah oui, on a tous un jour comme ça où on découvre que l'on n'est pas blanc, où on découvre qu'on est hors norme. Alors moi, ça a été au boulot. Et je raconte souvent cet incident parce qu'en fait, cet incident, en fait, il est à la base de ce que je fais aujourd'hui. Donc avant, je travaillais dans la mode, je gérais des points de vente. Et un jour, je suis sur mon point de vente et ma directrice réseau arrive sur mon point de vente. Et à l'époque, je portais une petite afro. Elle me regarde de haut en bas et me dit « Mais est-ce bien professionnel ?» en parlant des cheveux qui poussent sur ma tête.
Donc, de manière totalement naturelle.
Et c'est là où je me suis dit « Ah !» Ah, il y a un truc. Il y a un truc qui est en train de se passer. Donc, en fait, on avait une personne qui, dans la plus grande des souplesses, arrive sur mon point de vente et s'interroge sur le pourquoi de j'ai osé porter mes cheveux naturels.
Eh bien, c'est un point de départ ouais. Assez choquant. Ouais.
Alors, tu diriges ce qu'on appelle une agence d'empowerment, ouais. Empouvoirement en français ou pas?
Moi, je dirais empouvoirment, puissancement.
Impuissancement, waouh. Pour commencer, peux-tu nous raconter ce qui, dans ton parcours, t'a conduite vers le métier que tu exerces aujourd'hui?
Je pense que c'était une nécessité absolue, je dirais même carrément tripale. Il y a un moment donné où on se dit, on se pose la question de savoir ce que l'on peut faire en fait pour s'aider soi et aussi pour aider les autres. Et en fait, cette question, je me la suis posée après un licenciement abusif que j'ai pas eu la force de contester. Donc après ce licenciement, je fais une dépression et quand je commence à me relever, la question de savoir ce que je faisais après s'est posée. Et quand elle s'est posée, je me suis dit, j'ai pas envie d'y répondre maintenant. J'ai envie déjà de revenir en fait sur tout ce qui s'est passé durant ma carrière. Bêtement, en fait, j'ai pris un cahier où j'ai commencé à recenser de manière quasiment exhaustive tout ce qui m'était arrivé d'humiliant, de raciste ou de sexiste. Et donc, vous pouvez vous en douter, c'est un cahier assez épais. Et donc, c'est à la suite de ce cahier. Donc, je me retrouve avec un cahier où je recense tout ce qui m'était arrivé durant ces 10 ans de carrière dans la mode. Et je me suis dit, mais en fait, ce cahier, il faut que je le transforme en quelque chose. C'est-à-dire que d'un cahier d'humiliation, comment je peux le transformer en livre des ombres avec des formules magiques contre le racisme et le sexisme. Et donc, du coup, je me suis mis à imaginer ce qu'on appelle des fins alternatives. Par exemple, l'incident que je viens de vous raconter, j'ai imaginé une fin alternative à cet incident. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai subi ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire ne pas savoir quoi répondre, ne pas savoir comment réagir. Et dans ma fin alternative, déjà, j'avais un langage corporel différent. C'est-à-dire que quand je me refais la scène de cette fameuse remarque, en fait, je vois en fait ma responsable arriver et je me vois en fait shrinker. C'est-à-dire que mes épaules se rabaissent. Et déjà dans mon corps, je lui ai envoyé un signal comme quoi elle avait le pouvoir. Donc quand je réécris ma fin alternative, c'est tout de suite, elle arrive et tout de suite, je me mets en tension avec les épaules droites, comme un homme politique. Donc j'ai une posture comme ça d'homme politique et tout de suite, dans le corps, je dis quelque chose. Je dis, comme dirait Serena Williams en arrivant sur le cours, « Don't try me, ne m'essayez pas ». Et donc ça, je le disais avec mon corps. Et donc j'ai commencé à faire des recherches pour rédiger ces fins alternatives, des recherches sur la programmation neurolinguistique, des recherches pour savoir dans quel contexte en fait j'évoluais. Donc des recherches sur le black feminism, le féminisme noir, pardon, des recherches sur le racisme systémique, etc. Et c'est avec ces données-là que j'ai rédigé ces fins alternatives. Et donc, à la fin de ce travail de rédaction, je me suis dit « bon, bah, c'est bien gentil ». C'est bien écrit, c'est des histoires où tu gagnes, forcément. Est-ce que tu peux faire gagner d'autres personnes? Et là, j'ai commencé à coacher en fait, les personnes de mon entourage. Je leur disais, raconte-moi un problème que tu as rencontré au travail et je regarde dans mon cahier si j'ai une solution. Et pendant un an, en fait, j'ai fait un travail de recherche où j'ai recensé en fait, les résultats que j'obtenais. Où j'ai aussi créé comme une espèce de... Où j'ai commencé à réfléchir en fait à la domination comme une espèce d'algorithme qu'il fallait solutionner. Et je découvre avec ce cahier en fait que les dominants n'ont pas le luxe de l'unicité. Et une fois qu'on a compris une personne dominante, on les a toutes comprises. Et c'est à partir de là que j'ai ouvert mon agence.
D'accord. Alors, tu t'adresses spécifiquement aux femmes et en particulier à celles qui vivent l'expérience du racisme, donc des femmes d'origine maghrébine, asiatique ou des femmes noires. Pourquoi tu as fait ce choix et quelles sont les difficultés spécifiques qu'elles rencontrent?
Alors, en fait, j'ai fait ce choix parce que je me suis dit, je veux être coachée comme je n'ai pas pu être coachée à l'époque. Et je sais pertinemment, je le savais pertinemment, que si à l'époque j'étais partie voir un coach qui n'était pas alerte sur les questions de racisme, on l'aurait nié. Il l'aurait nié. J'aurais dit, voilà, je pense qu'à mon travail, il y a du racisme. La personne en face, qui souvent aurait été blanche, aurait dit, mais non, il faut travailler sur vous. Vous la connaissez, celle-là, le fameux « travail sur toi ». Et je me suis dit, en écrivant sur Sky, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des personnes, en fait, il y a d'autres personnes que moi qui vivent ça. Et du coup, l'idée, ça a été de me dire, comment je peux solutionner ça? Comment je peux transformer, en fait, ce qui m'est arrivé en savoir tactique? Et comment je peux diffuser, en fait, ce savoir tactique? Et je vous avoue, en fait, que ça a été... l'idée a germé à partir d'une très belle rencontre. Je sais pas si vous l'avait reçu ici, mais Laura Nsafou qui a écrit Comme un million de papillons noirs, qui
elle
cartonne aujourd'hui.
Dans un autre podcast de chez Binge, dans Miroir, Miroir, par Jennifer Padjemi.
D'accord.
Bah, comme toi d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Elle nous a doublés.
Et donc, c'est Laura Nsafou qui un jour m'a dit tranquillement, mais Marie, pourquoi tu fais pas coach? Tu coaches tout le monde autour de toi. Et j'ai dit, ah ouais? Et ensuite, on a monté avec elle un premier événement qui s'est appelé Femmes noires et travail. On a réuni 20 femmes noires sur la question du travail. Et je me rappellerai toute ma vie en fait de cette journée. Parce qu'en fait, chacune est venue me voir à la fin. Chacune est venue nous voir, Laura et moi, à la fin, pour nous dire, mais je croyais que j'étais toute seule en fait. Et c'est de là, en fait, vraiment cet événement précis qu'a jailli l'idée que je devais m'engager dans ça.
Moi, j'aime bien le truc que tu as raconté sur les fins alternatives, parce que moi, je crois que quand je suis face à un conflit sexiste ou raciste, je me fais moi-même mes fins alternatives, tu sais, mais dans ma tête, en mode « putain, mais j'aurais dû dire ça !»
Tout le monde.
Et en fait, le truc, c'est que la fois d'après, je le fais pas. Et du coup, de savoir que toi, tu as une méthode qui permettrait aux femmes de pouvoir, du coup, donner vie à ces faits alternatives. Et tu dis, je suis un peu la bonne copine qui te dit la vérité, celle que tu n'as pas envie d'appeler parce que tu sais qu'elle va te tuer. Je suis la no bullshit friend. Donc, peux-tu nous expliquer en quoi consiste concrètement, du coup, ce travail de coach ?
Bah, en fait, le truc, c'est que, comme tu viens de le dire, les fins alternatives, on s'en crée tous, finalement. J'ai une grande liste de disputes ou de confrontations que j'aurais pu gagner.
On a tous ça.
Voilà, on a une très grande liste de confrontations qu'on a pu gagner. Et alors déjà, le premier message que je trouve important de diffuser, c'est qu'il n'y a pas de prescription en matière d'humiliation.
Tu rappelles les gens ?
Ah bah alors là, mais une j'adore. Rageuse. C'est-à-dire que si, imaginons que un truc se soit passé le 1er janvier 2019 et que le 31 décembre 2019, je sente encore la piqûre de ce qui s'est passé... Je rappelle. Non, mais c'est ça, c'est en fait, qui nous empêche d'agir. C'est-à-dire que, en fait, on croit qu'il y a une fenêtre d'action. Et on croit que la fenêtre d'action se ferme. La fenêtre d'action se ferme jamais parce que le trauma ne se ferme pas au final. Donc, j'estime que si le trauma nous suit, la fenêtre d'action est encore ouverte.
La meuf, c'est Terminator.
Ah bah oui. Ah bah oui. Déjà, tu me dis ça, mais je dois rappeler des gens de 2015. Et j'en reviens justement à ta question. Oui, il y a effectivement de l'ordre de je vais dire des vérités qui ne plaisent pas. Et l'accompagnement, c'est aussi, il y a tout un travail aussi de faire accepter aussi ces vérités qui ne plaisent pas. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes que je suis qui arrivent et qui me disent « Mais Marie, je sais que ce n'est pas un problème de racisme. » Et
moi, qui sont visées elles-mêmes par le racisme.
Voilà, elles sont visées par le problème elles sont visées par le racisme et elles vont me dire « Non mais Marie, je sais très bien que ce n'est pas un problème de racisme. » Moi, je dis « Ok. » Et je l'interroge. Je pose des questions. Ah, ok, donc toi, il t'a dit ça. Ok. Est-ce qu'il l'a dit à un autre collègue ? Non. Mm-hmm. Est-ce qu'on te demande, on le demande à une autre personne ? Mm-hmm. Non. Est-ce que t'es payé le même salaire que tes collègues ? Non, mais alors tu vois, accrobranche. Et c'est là qu'on sait que... voilà. Et donc, je pose énormément de questions parce que mon but, c'est pas de répondre aux questions à leur place, c'est de les amener à réfléchir sur ce qui leur arrive. Donc, je pose énormément de questions. Et après, c'est... Ah ouais, quand même. Il y a un truc. Et en fait, l'idée, c'est pas d'être dans un truc où je leur dis « Vous êtes juste victime de racisme ». Ça, on l'est, il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, c'est de se dire, pour qu'une stratégie soit effective, on est obligé de regarder partout. Si vous refusez de regarder un pan d'une réalité, bah, la stratégie qui va suivre, elle ne sera forcément pas concluante, elle ne sera forcément pas pertinente. L'idée, en fait, c'est d'avoir un tableau exhaustif de la situation et d'examiner ce qui fait mal aussi, de manière à avoir les stratégies les plus efficientes possibles.
Alors Marie, tu as l'air effectivement très très efficace. J'aimerais te soumettre à un cas d'école qui a beaucoup fait parler l'an dernier en France. Je propose qu'on écoute un extrait.
Ok.
Parce que pour moi qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France.
Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Alors, en septembre 2018, sur la chaîne C8, la chroniqueuse Absa Toussi a vécu une agression raciste de la part d'un funeste polémiste dont il n'est pas nécessaire de mentionner le nom ici. Elle a protesté publiquement et fait état de sa douleur, mais n'a été soutenue ni par ses collègues, ni par les responsables de l'émission. Pire, Thierry Ardisson, qui était son employeur, a non seulement tenté de la discréditer en rendant publique des informations personnelles la concernant, mais en plus a indiqué qu'il accepterait son retour dans l'émission si elle se présentait, selon ses termes, dans un bon esprit. Résultat, c'est elle qui a dû quitter l'émission alors que le polémiste a toujours pignon sur rue. Alors Marie, j'ai deux questions à te poser. Mm-hmm. Comment tu décryptes ce cas puisque en fait, on entend dans l'extrait qu'elle présente tous les gages de ce qu'on y peut imaginer être la respectabilité. Elle commence par dire qu'elle aime la France. Mm-hmm. Elle énonce son amour donc, pour le pays. Et toi, qu'est-ce que tu lui aurais conseillé pour que les choses se déroulent différemment ?
Alors déjà, je pense que forcément, quand on est une femme noire ou une femme racisée dans ce type d'espace, on est anxieuse, forcément. Et je pense en fait, et ça c'est vraiment mon intime conviction, je pense qu'on peut transformer en fait cette anxiété en préparation. Honnêtement, je crois Enfin, c'est vraiment facile de parler après coup, mais je crois vraiment qu'il y avait un moyen, en fait, de préparer ça. C'est-à-dire qu'en tant que femme noire, Zemmour arrive... Enfin, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom arrive sur un plateau. On sait qu'il a un livre à promouvoir. On sait très bien qu'il y aura une sortie raciste. C'est-à-dire, c'était textbook comme 2 et 2 font 4. On sait qu'à chaque fois que ce funeste personnage a un livre à promouvoir, a quelque chose à promouvoir, ou quand il voit que bah, finalement, ce mois-ci, c'est un peu chaud et qu'il doit...
Qu'est-ce que je vais inventer ?
Il doit provoquer de nouveaux engagements médiatiques, il va faire une sortie raciste. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il fonctionne, on le sait.
C'est vrai.
Vraiment, on le sait. Donc déjà, il y avait quelque chose à jouer, en tout cas en termes de préparation. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que femme noire, quand ce funeste personnage va arriver sur le plateau, en sachant qu'il va faire une sortie raciste ? Textbook.
Ouais.
Et aussi, la deuxième chose, c'est, vu que je sais qu'il va m'attaquer, comment je réagis ? Et moi, en fait, j'ai beaucoup pensé, juste, c'est marrant qu'on en parle, parce que j'ai énormément pensé à cet épisode. Et honnêtement, je pense que j'aurais sorti une Vincent Delerme.
Ah oui, Vincent Delerme face à Stéphane Guillon.
Extraordinaire.
Sur un plateau sur Canal+, c'était l'émission Stéphane Bern, je crois. Donc Stéphane Guillon était chroniqueur à l'époque. Et en fait, il attaquait un peu les invités avec ses billets humoristiques.
Tout à fait. Stéphane Guillon, c'était un sport pour lui d'attaquer Vincent Delerme. Et à un moment donné, les deux se retrouvent en face à face sur le plateau. Et Stéphane Guillon arrive, regarde Vincent Delerme en mode « Je vais te défoncer comme tout le temps ». Et là, on a Vincent Delerme, genre poker face. Et Stéphane Guillon se lance et Vincent Delerme sort son journal. Et on a Stéphane Guillon qui se décompose et qui quitte le plateau à la fin. Et j'ai trouvé ça en fait extraordinaire, cette manière en fait de reprendre le pouvoir, cette manière en fait de répondre aux attaques par le mépris. Parce que finalement, Vincent Delerme, je pense qu'il s'est checké. Il s'est dit, j'ai pas autant de répartie, je serai pas forcément entendu. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour signifier ? Pour reprendre de la puissance. Bon, après, c'est très facile pour un homme blanc de reprendre de la puissance. Hein. Il a qu'à se baisser, il l'a trouvé. Mais quand j'imagine en fait une fin alternative à ce qui s'est passé pour Apsatou, je pense qu'une Vincent Delerme, ça aurait été extraordinaire. Parce que je pense que ce personnage dont on ne doit pas dire le nom tire son pouvoir aussi des émotions des gens. Mmh. À chaque fois qu'il fait une sortie raciste, on sait que derrière, il y a une personne blessée, on sait que derrière, il y a une personne pas d'accord, etc. Une personne qui va essayer d'argumenter, en sachant que si elle essaie d'argumenter cette personne, elle argumente en fait le racisme. Et quand on argumente le racisme, on justifie de sa propre humanité. Et je pense que c'est ce qui l'excite quelque part. C'est à chaque fois se retrouver devant des personnes qui vont faire de lui l'assesseur d'humanité. Et je pense que le mépris était une réponse formidable à ça. Et je pense qu'elle aurait eu beaucoup plus d'impact si elle avait fait une Vincent Delerme.
Et quel conseil de coach aussi tu pourrais donner à cette jeune femme face au mépris de son employeur ? Parce que là, il y a eu donc, la préparation pour faire front au conflit. Mmh. Et ensuite, il y a toute la réaction de l'employeur qui, du coup, fait corps avec, avec le racisme qui a été exprimé sur un plateau. Il y a plein de gens qui ont dit « Ouais, elle avait qu'à pas y aller. » De toute façon,
c'est son travail.
Mais c'est son travail, elle est payée pour ça, donc c'est un taf. Elle est payée pour ça. Et du coup, le fait que l'employeur se dise « Attends, ce truc de revient avec un bon esprit, comme si elle avait eu un mauvais esprit. » Au départ, alors que le mauvais esprit, on le voit bien sur cette scène, on voit d'où il vient. Donc c'est pas elle qui est l'origine de ça.
Mais je pense que l'employeur
Et l'employeur est responsable. Puis il y a les collègues aussi qui détournent le regard, qui sont là, qui font comme si rien ne s'était passé.
En plus, les séquences d'après, elles n'étaient pas glorieuses, puisque je crois qu'il y avait une collègue à elle qui est arrivée en disant oui, mais Thierry a été parfait. Ah, moi j'étais là, bon, tu veux garder ton travail. Mais en vrai, la manière dont a réagi l'employeur d'Apsatou, c'est la manière dont vont agir tous les employeurs de France et de Navarre, en vrai. Ouais. C'est-à-dire que le racisme, on ne veut pas en entendre parler. Surtout, on est en France et il y a une espèce de dissonance cognitive sur ces sujets. Quand toi, tu arrives et que tu dis « Ah, il y a du racisme », la personne d'en face, elle va dire « Mais t'es malade, on est au pays des Lumières ». Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas payé la facture depuis. Tu vois, il y a quelqu'un qui n'a pas payé la facture depuis plusieurs siècles déjà. Donc, ce serait bien qu'on sorte de cet argumentaire du pays des Lumières. Mais ce que je veux dire, c'est que la parole qui dénonce le racisme est une parole qui est difficilement entendable. Tu vois ce que je veux dire? Et que tout ce qui s'est passé après, c'était vraiment ce qui devait se passer. Je m'attendais pas à un soutien indéfectible de Thierry Ardisson par vent et marée. Quand il invite Apsatou et quand il invite Éric Zemmour, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et à mon avis, il espérait clairement que ce moment arrive. Il ne pouvait pas espérer mieux. Et aussi les collègues, hein, c'est un peu comme cette fable de La Fontaine, la peste, quand il dit « ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ». C'est-à-dire que tout le monde, en vrai, tout le monde a vu qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Et je pense que certains de ses collègues ont fait la balance bénéfice-risque et qui se sont dit « je ne risque pas ».
Ouais.
Donc, dénoncer le racisme, c'est être aussi et accepter, en tout cas, cette entre guillemets, position de solitude que ça va amener.
Ouais, et le coût que ça peut avoir aussi.
Et le coût que ça peut avoir. Après, en termes de gestion de crise...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Je pense que l'idée aussi, c'est de prendre de la hauteur. Quand je dis prendre de la hauteur, c'est prendre de la hauteur de manière stratégique, parce que Apsatou, elle a le droit d'être blessée et j'aurais été tout autant blessée. Mais quand je dis prendre de la hauteur, c'est se poser la question de comment je transforme cet incident, comment j'en fais quelque chose de meaningful, comment j'en fais quelque chose qui ait une vraie signification. Enfin, moi, je reviens sur cette notion de mépris. Il faut qu'on apprenne à mépriser, nous aussi. Et qu'on aille au bout du mépris. Et il y a un truc que je vais prendre comme exemple. J'ai que des exemples bizarres, mais j'aime bien le cas Valérie Trierweiler. C'est-à-dire qu'elle s'est fait, quand elle a sorti son livre, elle s'est fait insulter de partout. Et enfin, non, avant même qu'elle sorte son livre, elle se faisait déjà insulter de partout. Elle avait vraiment mauvaise presse. Sans jeu de mots. Et quand elle sort son livre, bah bien sûr, toute la France la veut sur tous les plateaux. Et si je me rappelle bien, elle n'a pas fait une seule interview en France. La personne était Valérie, elle était comme De Gaulle, elle parlait depuis Londres. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était « Moi, vous n'êtes pas capable de me comprendre ? Eh, je ne vous parle pas. J'adore. » Et je pense qu'il y avait un coup à jouer à ce niveau-là, dire « La France ne me comprend pas ? Je vais aller parler à l'étranger. » On va aller parler de ce qui s'est passé à l'étranger. Je vais faire que vous soyez humiliés par le Guardian ou le Times.
C'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand j'ai eu un problème avec le gouvernement français et que j'ai eu effectivement un édito du New York Times qui avait pour titre « La France échoue face aux questions raciales ». Et je pense que ça a pas mal énervé au niveau du gouvernement puisque c'était une réponse que je n'ai pas faite mais qui a été faite par des gens. On n'aime pas avoir une mauvaise image à l'étranger. Donc
exactement. Et en fait, on se rend compte que, moi je reviens sur le terrain de l'entreprise, il n'y a que deux manières de parler à l'entreprise. C'est soit par l'argent, soit par la réputation.
Mmh, effectivement.
Pas par le « je pense que tu m'as fait du mal, est-ce que tu voudrais bien changer s'il te plaît ?» Never.
Du coup, moi, j'ai un autre cas d'école à te soumettre, quelque chose dont j'ai souvent entendu parler. Tu sais, on parle du plafond de verre pour les femmes ou voilà. et en particulier les personnes racisées et asiatiques, on parle du plafond de bambou, tu vois, le bamboo ceiling. Et il y a beaucoup de témoignages qui parlent d'une certaine limitation dans la progression professionnelle. Alors, on prend par exemple la Silicon Valley, où il y a énormément de personnes asiatiques qui sont employées, mais rarement à des postes de direction, voilà. Beaucoup d'exécutants, donc peu considérés comme, comme un poste avec initiative, peu considérés pour des postes de management ou de leadership, à cause des clichés qui, sont, qui leur collent à la peau, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut étendre à d'autres personnes minorées. Donc pour une femme qui est en poste dans une société et qui voit ses collègues devenir ses boss successifs, c'est-à-dire qu'elle aspire au même avancement à compétences égales et à qui on répète « c'est pas de chance pour cette fois-ci, mais tu sais, la prochaine c'est pour toi », alors qu'elle sait qu'en fait ça va pas venir. Comment on fait ? Soit je quitte, mais ça vous est vaincu ? Enfin, je veux dire, est-ce que... Je ne sais pas, en fait, s'il faut quitter ou s'il faut vous trouver mieux ailleurs. Mais en même temps, tu vois, cette expérience qu'elle a investie dans cette boîte, ça lui appartient. Enfin, tu vois, elle... et en même temps, est-ce qu'il faut s'acharner ?
Alors moi, je dirais, il y a deux choses. Une fois que tu as compris que tu n'es pas sur Terre pour être testé, tu fais des choix qui vont être différents. En fait, le truc, c'est que effectivement, il y a le réflexe de dire j'y suis, j'y reste, c'est pas à moi de partir. Mais quand, dans la même période, on voit qu'on perd ses amis, on voit que la santé est impactée, on voit que si on est en couple, ben, ça va plus parce que les ennuis du travail viennent se greffer à ceux du couple, etc. Quand le fait de rester n'est pas forcément gagné. Comme disait Tantine Taubira, parfois il faut savoir partir. Le vrai courage, parfois, il est de partir. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire aussi la balance entre ce qu'on gagne et ce que l'on perd. Donc, je dirais que de manière absolue, s'acharner, ce n'est pas forcément la bonne solution. La deuxième chose sur laquelle je voudrais répondre, c'est effectivement le fait de voir tous ses collègues évoluer, etc. Il y a un truc, c'est qu'on va nous utiliser effectivement comme ces espèces de petites fourmis industrieuses. Ça veut dire que concrètement, on a une intelligence opérationnelle et que notre valeur, elle se base sur un travail réel. On est d'accord. Et si ta valeur se base sur un travail réel, ça veut dire qu'il y a une fenêtre. Je ne dis pas qu'elle est très ouverte, hein, je ne dis pas que c'est une grande fenêtre, mais il y a forcément une fenêtre, un moment dans ta carrière où tu deviens indispensable. Si par exemple, je ne sais pas, moi, t'es dans une banque et que c'est toi qui rédige et présente tous les rapports, bah, le jour où tu pars, qui le fait ? Puisque personne n'a cette expertise, tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est de se dire, de manière opérationnelle, en fait, j'apporte une valeur à l'entreprise, même si elle refuse de la reconnaître. Est-ce que je peux briller par mon absence ? Est-ce que je peux leur faire se rendre compte que s'ils me perdent, finalement, ça peut poser un problème. C'est une fenêtre, en fait, qui peut être de 3 jours, qui peut être ouverte sur 6 mois. Mais en tout cas, c'est dans cette fenêtre-là qu'il faut agir. À partir du moment où tu es considéré comme une fourmi industrieuse, ton travail est indolore, ton travail, on ne le voit pas, mais c'est quand tu pars qu'on le réalise. Et ça me fait penser à une stratégie que j'avais utilisée avec une cliente qui, à un moment donné, se rend compte en toute souplesse que son collègue Jean-Mi doit être payé genre 5K de plus à l'année. Elle me dit « Marie, je me suis rendu compte que mon collègue était payé plus que moi. Je vais voir l'ARH. » J'ai dit « Oh, malheureuse. » Ça, c'est tout ce qu'on ne va pas faire. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre une pression. C'est qu'on va effectuer, en fait, une stratégie de pression et qu'à notre petit niveau de David, on va mettre la pression, on va mettre un stress à Goliath. Donc, elle était justement dans cette fenêtre où elle était quasiment indispensable puisqu'elle était la seule à faire ce qu'elle faisait. Donc, si elle partait, c'était le bordel. On est d'accord. Donc, on a fait une stratégie en 3 temps. C'est-à-dire que, premièrement, elle a actualisé son profil LinkedIn. l'air de rien, hein, l'air de rien, on actualise son profil LinkedIn. La deuxième phase, c'était, vous avez tous cette personne au bureau qu'on appelle la radio. Vous lui dites quelque chose, elle diffuse. Donc, je lui ai dit, tranquillement, lentement mais sûrement, à la machine à café, tu vas parler à Madame la radio. Et donc, elle commence à dire à Madame la radio, « Ah, je me sens plus très bien dans mon poste. J'essaie de voir ce qu'il y a ailleurs. On va voir ce qui se passe. Bien sûr, la radio diffuse. Son boss vient la voir. Il lui dit, « Au fait, ça va sur ton poste ? T'as besoin de... » Je lui ai dit, « Si jamais ton boss vient te voir, tu lui dis rien du tout. » Elle a fait, « Non, ça va très bien. Ça va parfaitement bien. » Et bien sûr, elle part en vacances. Et pendant ses vacances, on a envoyé des candidatures en mettant son boss en référence.
Ah, trop bon.
Ça veut dire que pendant qu'elle était en vacances, il y a des gens qui appelaient son boss pour débaucher la personne qui faisait tourner le service. Et en fait, c'était pour le mettre à genoux. C'est-à-dire que pour effectuer en fait un dialogue, il faut que vous soyez à la même position. Et donc, pour qu'il y ait un dialogue effectif, il faut que le dominant redescende un peu. Et c'était ce stress qui l'a fait redescendre. Et donc, elle revient de vacances comme une fleur. Et son boss lui dit, première heure, réunion, j'ai besoin de te voir, tout stressé. et il lui a posé la question qu'il ne faut jamais poser à des personnes que je coach. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, on a déroulé. Elle a déroulé. C'est-à-dire que rien que le boss en fait, a pressenti que si elle partait, ça posait en fait, des difficultés logistiques, ça impactait le chiffre, ça impactait énormément de choses, donc il ne pouvait pas se permettre. Mais c'est toute cette manœuvre en fait, qui a fait qu'il s'est rendu compte que la personne que je coachais avait de la valeur. Et donc, le fait de, j'appelle ça en fait, envoyer les gens dormir à Rue Lagène. Quand tu les envoies redevenir, oh, tu sais, Rue Lagène, c'est ghetto. Rue Lagène, personne veut y dormir. Donc tu les envoies dormir à Rue Lagène, et une fois qu'ils ont compris, hop, venez, on parle.
Dans tes conseils, il y a beaucoup de choses qui relèvent de la posture et de l'apparence.
Bien sûr.
Tu parles notamment de marcher comme un patron du CAC 40.
Ouais.
Est-ce que tu encourages beaucoup tes clientes, notamment à soigner leur apparence. Est-ce qu'on t'a pas opposé le fait que c'était peut-être superficiel ou
Mais bien sûr. Après, faut toujours voir d'où viennent la critique. Je sais pas, ça vient du côté déshydraté de la force. Ce genre de critique, pour moi, vient du côté déshydraté de la force. Comment ça, Marie, tu conseilles aux gens de mettre du rouge à lèvres ? Comment ça, tu conseilles aux gens de... Mais en fait, le truc, c'est que l'apparence, en fait, conditionne aussi beaucoup le mental. C'est-à-dire que quand j'ai des... Bah, comme aujourd'hui, par exemple, venir ici te parler, ça me stressait un peu. Donc, j'étais obligée de mettre mon meilleur rouge à lèvres rouge. Tu vois ce que je veux dire ?
Il est très beau, je confirme.
Merci. Donc, l'idée, c'était de me dire comment, en fait, je vais me sentir en confiance moi-même dans cet espace. Et donc, je vais multiplier, en fait, les signes extérieurs de confiance. Donc, ça passe par l'apparence. Ça passe par l'apparence. Ça passe par le fait, en fait, de se sentir bien dans son vêtement. Parce que si on se sent bien dans son vêtement, on bouge autrement. Et c'est le fameux « faites semblant jusqu'à ce que ça devienne réel ». C'est multiplier en fait les signes extérieurs de confiance, même s'ils ne sont pas là, pour pouvoir affronter l'enjeu.
Moi, j'adore parce que tu as plein de petits noms attentionnés pour les gens avec qui tu travailles. Alors, tu parles de Jean-Mi, donc je pense que c'est une personne que tu portes dans ton cœur. Il y a aussi Pimprenelle, apparemment. Et tu appelles donc tes clientes, tes pépites aussi,
oui.
Parce que j'imagine qu'elles t'apportent aussi beaucoup de choses. Et tu es autrice d'un feuilleton qu'on adore. Sur Twitter qui s'appelle hashtag jeudi survie au taf. Ce sont des threads que tu publies tous les jeudis sur Twitter donc, et tu exposes des cas que tu as résolus et du coup ça, tu vois, ça permet de développer des sujets autour des stratégies que tu as élaborées. C'est très très drôle et très instructif. Donc ton but avec ça c'est de donner des outils à ces personnes-là pour lutter contre Goliath, ça que tu...
Tout à fait. En fait, si tu veux, mon travail, en fait, c'est vraiment de l'antidomination. C'est-à-dire que comment on retourne le stigmate, comment, en fait, de la position du fond, on se sert de ce que l'on voit. Parce qu'en fait, être une personne racisée, c'est être la personne du fond, c'est être reléguée à la place du fond. Mais on oublie souvent que du fond, on voit tout. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de cette vieille position là qu'on nous a donnée ? Et en fait, si vous vous rendez compte, enfin, vous êtes des personnes, vous êtes deux personnes racisées, vous êtes deux femmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à un homme qui vous dit je ne suis pas sexiste ? Tout en étant sexiste.
Ce sont les phrases qui commencent par « je ne suis pas raciste » ou « je ne suis pas sexiste », elles se finissent jamais bien.
D'accord.
Jamais.
Jamais. Et c'est drôle parce que la personne qui vous dit « je ne suis pas raciste » tout en étant raciste, elle est dans un truc complètement inconscient.
C'est clair.
Et toi, t'es là, mais mon Dieu, it's happening. et je trouve que même ça, en fait, c'est du savoir tactique. En fait, je trouve que notre pouvoir réside vraiment dans le fait qu'il nous sous-estime.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que minorés, pour survivre, en fait, on est obligé de tout savoir des dominants. Tu vois,
bien
c'est
sûr.
Un peu le, comme les femmes de ménage, tu vois, chez, les, chez leur, leurs employeurs, elles savent tout, elles connaissent leurs secrets,
bien
etc.,
sûr.
Etc. Donc nous, c'est un truc de survie dont les dominants n'ont pas forcément conscience.
Bien sûr.
Nous, on sait tous deux et en fait, ils s'en foutent de nous. Ils n'ont pas besoin de savoir des choses sur nous. Donc, ils ont moins de, en termes de rapport de pouvoir, ils ont moins d'éléments contre nous que nous, on peut en avoir contre eux.
Bah, en fait, tel que l'anthropologue qui va en Papouasie, Nouvelle-Guinée, bah, moi, je peux aller dans le 7e, il y a quoi ?
Ouais.
Non, mais c'est vrai, je peux devenir anthropologue, je peux m'asseoir à des conseils de dirigeants du CAC 40 et faire mon anthropologue aussi. C'est-à-dire que l'étude en fait, de son environnement, c'est aussi du savoir tactique. Et tu as entièrement raison, on sait tous deux en vrai. Ils ne savent rien de nous.
Il suffit de regarder la télé, en fait.
Voilà. Ils, ouais, exactement.
Ils parlent tout le temps d'eux.
Voilà. Ils ne savent rien de nous parce que savoir quelque chose de nous, en fait, n'affecte pas, en fait, leur survie, n'affecte pas leur statut. Donc, du coup, ils sont dans cette espèce de... Toni Morrison parle de névrose blanche. Je pense qu'on est, on est dans ça, sur les questions raciales.
Il y a d'autres questions que je voudrais te poser par rapport à la position spécifique des femmes non blanches. Il y a une question qui nous tient à cœur ici, c'est la question de la fétichisation des corps non blancs. Donc j'imagine que il y a des cas spécifiques de harcèlement contre les femmes non blanches auxquelles tu as été exposée. Et puis l'autre question, c'est la question de la compétence, de l'incompétence présupposée, effectivement, où systématiquement, on a besoin de se justifier, on
Bien
a besoin
sûr.
De prouver, on a besoin de travailler plus, ce fameux adage, pour obtenir moins. Comment tu abordes ces questions-là dans ton travail ?
Alors déjà, la question de la fétichisation, en fait, on s'en rend pas compte. Hein. En fait, il ne pourrait avoir de féminisme universaliste. Tout simplement parce que l'expérience des femmes non blanches, déjà, c'est une expérience racialisée. Par exemple, quand je coach une femme noire, quand je coach une femme asiatique, l'expérience du sexisme va être différente. D'accord ? Mais en tout cas, ce qui nous rejoint, ce qui nous, le point commun de nos expériences, c'est l'hypersexualisation. C'est-à-dire que l'hypersexualisation, c'est quand on va attacher en fait, un caractère sexuel à quelque chose qui ne devrait pas forcément en avoir par rapport à ce que la personne est. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai eu des trucs. Enfin, moi, j'ai une cliente qui travaille plus en France depuis, mais qu'on appelait la geisha.
Oh mon Dieu, oh, c'est horrible.
La souplesse avec laquelle ton collègue arrive le matin, toi, t'as même pas bu ton café. Salut la geisha. Ok, c'est comme ça que je commence ma journée de travail. Enfin, les femmes noires, c'est femmes noires au travail. C'est si t'es pas entre guillemets la mama qui fait des gâteaux tous les vendredis, ben on t'aime pas. si t'as le malheur d'être et pour de vrai, hein, si t'as le malheur d'être trop bien habillée, on va dire que tu es méprisante et hautaine. Enfin, c'est des trucs complètement fous. Mais quand on en parle entre nous, on se sait. Et pour dire en fait à ma cliente en fait qu'on appelait la geisha, je lui ai dit écoute, je lui ai dit voilà, à un moment donné, il faut jouer aussi sur les stéréotypes qu'on nous impose. C'est-à-dire que concrètement, t'es une femme asiatique, donc on croit que t'es dans la retenue partout, tout le temps, etc. Donc on t'appelle la geisha, tape un coup de pression. Et en fait, on s'est, c'était vraiment ce cas, c'était vraiment marrant parce que on s'est retrouvés à aller crier dans un parc où je disais, c'est pas comme ça qu'on crie. Ah mais non, mais redresse-toi, vas-y, crie-moi dessus. Et tous les gens nous regardaient comme c'est quoi ces deux personnes folles là. Et en fait, je lui ai dit voilà, je lui ai dit dans un mois, tu cries sur ton collègue.
Il a dû être choqué.
Ah mais elle avait la date et tout. Elle avait la date. Parce que tous les jours, il y venait de sa petite remarque, etc. Et je lui ai dit, dans un mois, tu vas crier sur ce collègue. Elle l'a fait.
Et c'était un truc lié au travail ou pas du tout ?
Non, c'était au travail.
Oui, mais c'était... Elle criait sur lui pour un truc...
Non, il lui a fait une énième remarque pendant la pause déj.
Ouais, ouais.
On attendait la remarque. Hein. Et en fait, je l'avais préparée. Je lui ai dit, c'est comme ça qu'on crie, etc., etc. Et donc, du coup, elle y était préparée. Et elle m'envoyait des textos. Il n'a rien dit aujourd'hui. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, demain. et quand elle se prend la remarque, genre dans la salle de pause, elle s'est levée. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et plus jamais, il l'a fait. Et je l'ai fait en fait parce que c'était une femme asiatique et que cette espèce de stéréotype, comme quoi les femmes asiatiques sont calmes, elles s'énervent jamais, on devait aller à l'encontre de ça. Ouais. Par exemple, une femme noire, je n'aurais pas conseillé la même chose parce que nous, on a déjà sur notre dos le fameux « angry black woman
».
Stéréotype. Donc, on serait allé dans un truc beaucoup, beaucoup moins frontal.
Parce que ça aurait nuit, effectivement, ça aurait entretenu des préjugés existants.
Exactement, exactement. Et donc, le fait qu'elle lui crie dessus, ben, tout d'un coup, c'était « Oh là là, faut pas la chauffer hein. !»
Bon, ben, on arrive à la fin de
ouais,
cette épisode.
On avait des milliards de questions à te poser, Marie.
Moi, j'ai trop envie de venir être coachée par toi.
Ben, merci pour ces petits, ces petits conseils personnalisés. Hein. J'espère que tu vas pas nous facturer la séance.
Ben, tout de suite.
Donc, vous avez eu un aperçu des stratégies de survie face au racisme quotidien dans le taf. Où peut-on te trouver si besoin de coaching ? Sur ton Twitter, @napilicaio. Alors, je vais l'épeler. N-A-P-I-L-I-C-A-I-O. Et te suivre sur Twitter et voilà.
Voilà, il y a le hashtag jeudi survie au taf.
Ouais, il faut le suivre absolument, c'est
merci.
Hyper drôle. Hein. C'est des cas, voilà, effectivement des cas que tu exposes.
Voilà, et en fait l'idée c'est de se dire que le pouvoir est quelque chose de totalement relatif et de la même manière qu'on le donne, il se reprend.
C'est une très très belle fin, très encourageante, et qui donne vraiment de l'espoir. N'hésitez pas, auditrices et auditeurs, à nous faire part de vos impressions par rapport à ce qui s'est dit, si vous avez vécu des choses similaires au travail, si au contraire vous pensez qu'au travail, en fait, non, il n'y a pas du tout de racisme, que ça n'a rien à voir et que peut-être qu'on est un petit peu parano. N'hésitez pas, nous on est ouvertes à toutes les remarques. Si vous voulez parler à Marie, vous pouvez évidemment la contacter directement sur Twitter, partager aussi des choses que vous n'avez pas forcément vécues personnellement, mais dont vous avez été témoin. Si vous-même, vous avez été acteur ou actrice de quelque chose que vous regrettez, eh ben, on est prêt aussi à vous entendre. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio. Binge, c'est B-I-N-G-E. Ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le @kiftaras sur Twitter, la page kiftaras sur Facebook ou le hashtag kiftaras sur tous les réseaux sociaux.
Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Solène Moulin. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya.
Merci Grâce.
Merci Marie.
Merci.
Merci.
Binge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.